Merci d'être là ce matin. Oui, l'amour renversant, extravagant de Dieu, c'est ce qui nous fonde dans qui nous sommes et nous donne notre identité, notre valeur, n'est-ce pas? Amen. Oui, moi aussi, je voulais exprimer vraiment ma gratitude envers tout le monde. La semaine passée, on a travaillé de façon extraordinaire en équipe, et puis ça a été merveilleux. Vraiment, on ressentait la présence de Dieu, hein, dans cette rencontre-là, de ces funérailles-là. Gloire à Dieu, quel témoignage de la part de notre sœur, elle qui parlait encore, quoique, comme l'a dit, mort, mais il parle encore, je pense. Mais c'est ça, le témoignage de notre sœur. Puis je vous encourage à écrire. On parlait de ça. Qui parlait de ça? Je pense que c'est Jacqueline. D'écrire. Les écrits restent. Les écrits restent. Puis quand vous écrivez ce que le Seigneur a fait dans votre vie, dans votre cœur, bien, à vos funérailles, ça va servir de témoignage. Alors, je vous encourage à écrire des choses. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on poursuit dans notre série « Qu'attends-tu de ton avenir » sur la série sur l'espérance du croyant. Et répétez avec moi, j'espère que, comme moi, ce verset-là commence à rentrer dans votre mémoire et à faire partie de votre quotidien. Romains 15, 13, répétez avec moi. « Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. » Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Puis, ce matin, on poursuit avec le règne millénaire de Christ. Le règne millénaire de Christ, on a commencé à regarder ça la semaine passée. Ce matin, on va regarder plus en détail à certaines choses, certaines dimensions de ce règne. Ce qu'on a vu à date, c'est que le règne éternel de Christ débute par une période de 1000 ans sur la terre actuelle. On a vu dans les semaines passées le rêve de Nebuchadnezzar dans Daniel 3, où ce que Dieu a donné un rêve au roi, et Daniel en a donné l'interprétation que Dieu lui a donnée. C'est la suite des dynasties de ce monde depuis qu'il n'y a plus eu de roi sur le trône de David. Il y a eu d'autres dynasties avant Babylone. Il y a eu la Syrie, hein? Puis il y a eu d'autres dynasties ailleurs dans le monde, par exemple la Chine, l'Inde, etc. Mais cette statue-là représente la série, la suite de royaumes qui ont dominé la région, incluant la nation d'Israël, avec la rupture de la dynastie de David, jusqu'au retour de celui qui va s'asseoir sur le trône de David. Vous comprenez? Fait que Dieu a fait une parenthèse dans l'histoire de la nation d'Israël et il appelle ça le temps des nations. Le temps des nations, c'est une expression que vous allez voir dans la Bible. Le temps des nations. Alors, quand Jésus est venu la première fois, les disciples s'attendaient à ce que Jésus établisse son règne là. Mais non, il l'a établi spirituellement, on l'a vu ça. Mais on voit que la série dynastie de royaume qui domine sur Israël va prendre fin avec l'arrivée de cette grosse pierre qui frappe la statue à ses pieds et qui devient une montagne qui remplit toute la terre. Et dans Daniel, c'est clairement indiqué que c'est le règne de Dieu et de son peuple qui vient remplir toute la terre. Mais ce règne éternel-là est un règne éternel. Mais ça débute avec une période de 1000 ans où ce que Christ vient régner sur le trône de David, son ancêtre, son père, sur Israël, mais sur les nations également. Les nations sont encore là. Et le péché est encore là. Pourquoi on sait ça? Parce que on a vu la semaine dernière qu'il va juger avec un sceptre de fer et il va appliquer sa justice promptement. Ça veut dire qu'il y a encore le péché, mais le péché n'est pas permis de se manifester. Le péché n'est pas permis de courir comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi c'est un temps de paix et d'harmonie sur la terre. Parce que Christ règne, il applique une justice parfaite, universelle, et on va revoir ça encore ce matin. Voici ce qu'on a vu la semaine passée. Le règne millénaire de Christ sera caractérisé par la justice, une nature restaurée. Hein, le lion couchera avec l'agneau, etc. Le bœuf avec l'ours, puis le petit enfant va jouer à l'embouchure de la troue du vipère. La terre va redevenir un endroit sécuritaire où il fait bon vivre. Actuellement, la terre est de plus en plus un endroit qui est difficile à vivre et dangereux de plus en plus. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, c'est basé sur Ésaïe 11. Fait que si vous voulez savoir tout ça, allez voir Ésaïe 11, ça parvient tout de là. Les peuplades de la terre ne vivront plus dans l'angoisse et l'incertitude, mais dans l'espérance, car Jésus lui-même sera l'incontestable roi des rois à Jérusalem. Son règne produira la santé, la prospérité et la joie partout sur la terre. Maintenant, nous allons voir quelques détails de plus sur le règne millénaire de Christ. Et le premier détail, c'est que le règne millénaire de Christ sera un temps de paix et d'harmonie puisqu'il débutera par la défaite de l'Antéchrist. Un temps de paix et d'harmonie puisqu'il débutera par la défaite de l'Antéchrist et l'enchaînement de Satan pendant 1000 ans. Ce matin, on n'aura pas le temps de voir l'enchaînement de Satan, mais on va voir la défaite de l'Antéchrist. Donc, tournez dans vos Bibles avec moi dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, et par la grâce de Dieu, on va demander au Saint-Esprit de nous éclairer ce matin sur ces écrits merveilleux de la parole de Dieu. Apocalypse 19, on va prendre à partir du verset 11. Vous êtes là? Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ou couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, l'Antéchrist, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Prions. Éternel notre Dieu, souverain créateur du ciel et de la terre, roi éternel, invisible, seul Dieu, à toi seul reviennent louange, adoration et gloire. Oui, tu es digne de régner, car tu nous as rachetés de tous les peuples et tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous des adorateurs de ta personne. Tu t'es fait connaître à nous et nous sommes connus de toi. Père, ce matin, nous demandons que par ton Esprit Saint, tu nous révèles des choses importantes sur ta personne, sur notre personne, sur ta venue, et que tu nous donnes, toi, l'auteur de l'espérance, cette espérance qui transforme nos cœurs, qui nous remplisse de joie et de paix par notre confiance en toi. Oui, Seigneur, saisis-toi de nous par ta parole et ton esprit, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Donc, on va y aller verset par verset. Donc, Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Le cavalier sur un cheval blanc qui s'appelle, comment? Fidèle et véritable. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de ce qu'il dit, il l'a accompli. Ce qu'il dit, il fait. Il le fait. Il a promis, je reviendrai. Et il va revenir. Il est fidèle et véritable. Merci. Dieu tient toujours, toujours, toujours ses promesses. Toujours ses promesses. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Il juge et combat avec justice, ou il juge avec équité et combat pour la justice. En contraste avec les leaders du monde et en particulier avec l'Antéchrist, qui combattent pour leurs propres intérêts et jugent en fonction de leurs intérêts et leurs agendas politiques. Le monde dans lequel nous vivons actuellement est un monde rempli de souffrances, beaucoup à cause de l'être humain. Et les dirigeants de ce monde dirigent pour leurs propres intérêts et en fonction de leur agenda politique. Mais il s'en vient un qui va juger enfin de façon complètement impartiale et juste. Il a les yeux flamboyants. Ça nous rappelle dans Apocalypse 1, quand Jean a eu la vision de Jésus, hein? Les yeux flamboyants, les yeux qui brillent, qui percent tout, qui voient tout. Rien ne lui est caché. Ça fait frissonner, là. La tête de ce cavalier est couverte de couronnes, plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Pourquoi? Ça symbolise qu'il vient régner sur toutes les nations. Il a les couronnes de toutes les nations sur sa tête. Il a un nom que personne ne connaît. C'est intéressant si ce n'est lui-même. Et ça, c'est intéressant. C'est quoi le nom d'une personne? Ben, c'est son identité. Hein? C'est son identité. Puis, ce cavalier-là a un nom que personne ne connaît sauf lui-même. Ça veut dire que personne ne peut le connaître entièrement, ce cavalier-là. Il est infini et personne ne peut le cerner. Tu sais, quand on connaît le nom de quelqu'un, là, on a un certain pouvoir sur la personne. On connaît la personne, on connaît c'est qui. Par exemple, quelqu'un qui fait un délit, ben, si personne ne sait c'est qui, si personne ne connaît son nom, on n'a pas de pouvoir sur lui. Mais si on connaît son nom, hein? Puis pourquoi ta mère, elle t'appelait par ton nom quand elle était choquée? Parce que il y a une poigne, là. Il y a quelque chose, là. Je connais ton nom, ben je te cerne d'une certaine façon. Mais lui, il a un nom que personne ne connaît. Wow! Il n'y a personne qui peut le cerner vraiment. Il n'y a personne qui peut exercer une autorité sur lui ou le contrôler. Ce nom-là est trop grand, trop merveilleux, et il n'y a personne qui a le contrôle dessus. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Bon, attention, au premier regard, on pourrait penser que ça représente la croix, mais non, ce n'est pas son sang à lui. Pourquoi? Ben, on le voit un petit peu plus tard. au verset 15, il pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et le vêtement trempé de sang fait directement référence à Ésaïe 63, versets 1 à 6. Si vous voulez le marquer dans votre Bible, là, Ésaïe 63, 1 à 6, on ne prendra pas le temps de le lire. Mais dans ce passage-là, Dieu dit qu'il regardait pour voir s'il y avait quelqu'un qui allait venir, qui allait s'avancer pour protéger son peuple, pour délivrer son peuple de ses ennemis, et il n'en a trouvé aucun, fait qu'il dit « moi, je vais le faire ». Et il est venu et il a écrasé les ennemis et c'est marqué que le sang rejaillit sur ses vêtements. C'est le sang des ennemis qui a tendu le vêtement de Jésus-Christ dans ce passage-ci, là, dans Apocalypse 9. C'est pas son sang à lui. C'est le sang de ses ennemis. Wow! Jésus est venu la première fois comme l'agneau de Dieu, la deuxième fois est comme le lion de Juda. Et il vient pour régner et pour mettre fin aux injustices et au péché et à la révolte. Ensuite, il est suivi des armées célestes vêtues de fin lin blanc et pur. Ce sont les croyants de tous les âges et leurs vêtements sont leurs œuvres justes qu'ils ont accomplies de leur vivant. Regardez au verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, c'est l'armée qui suit Jésus, c'est les croyants de tous les âges. Et ils sont vêtus de fin lin blanc. Ils suivent leurs cavaliers, eux aussi sur des chevaux blancs, pour faire la guerre. De sa bouche sort quoi? Verset 15, une épée aiguë pour frapper les nations. De sa bouche, ça veut dire que Jésus est juste à prononcer la parole et ses ennemis vont mourir. Sa bouche sort une épée tranchant aiguë qui tranche ses ennemis en deux. Il n'a qu'à prononcer les mots, le mal est détruit. Il frappera les nations qui se sont liguées avec l'Antéchrist, qui lui ont voué leur allégeance et adoration comme s'il était Dieu. Il dirigera, il régnera avec un sceptre de fer. On l'a vu ça la semaine passée. Le sceptre, quelqu'un m'a demandé, c'est quoi ça? Bien, c'est une espèce de bâton là, que les rois ou les empereurs tenaient, qui symbolisait leur autorité. Hein? Puis même au temps des pharaons, ils avaient ça. Là. Et souvent, sur le sceptre, il y avait des symboles. Par exemple, l'Égypte, c'était le serpent. Bon, Rome, c'était l'aigle. Hein? On voit ça dans les revues d'Astérix. Le sceptre là, avec l'aigle dessus, puis le signe du Sénat. Et puis, toutes les nations qui ont eu des rois, souvent c'est un globe ou quelque chose, une couronne, quelque chose, puis c'est souvent très beau, recouvert d'or, etc. Mais Jésus, lui, son sceptre, c'est un sceptre de quoi? De fer. Ça veut dire qu'il vient et il domine. Il ne permettra plus le mal de courir comme il fait aujourd'hui. Nous sommes dans la période de grâce. Mais ce jour-là, il n'y aura plus de grâce. Le péché qui se manifeste va être puni. Ça va être sévré dans la racine, dans l'œuf. Il vient pour juger avec un sceptre de fer. Et si vous voulez le marquer, on n'a pas le temps de le faire, mais dans le psaume 2, c'est marqué cela. Et aussi dans Apocalypse 2, 27 et 12, 5, ça revient. Le sceptre de fer. Jésus va régner avec un sceptre de fer. Il est le roi des rois, l'autorité suprême de tous les temps, le Seigneur des seigneurs. Personne ne peut s'élever au-dessus de lui. Au verset 17, on voit un ange qui se tient dans le soleil et qui appelle tous les oiseaux charognards à un grand festin. Quel festin? Qu'est-ce qui sera au menu? La chair de tous les rois et les armées qui se seront liguées contre Israël et le Seigneur Jésus au verset 18 et 19. Et finalement, la bête est capturée, l'Antéchrist au verset 20, la bête est prise, et avec elle le faux prophète, son acolyte, ils sont jetés vivants dans l'étang de feu. C'est un jugement immédiat, sans recours. On n'attend pas au jugement final qui est à la fin du millénium. Ils n'ont pas besoin de Dieu, il n'y a pas besoin d'attendre au jugement final, c'est direct. C'est un jugement direct, immédiat. C'est terminé. Et les autres qui l'ont suivi perdent leur vie de façon instantanée. Mais qui est cet Antéchrist? Fait que là, je vous invite à tourner avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va y aller rapidement, le temps file. On va terminer tôt ce matin. Alors, mettez votre tuque, attachez-la. On y va. 2 Thessaloniciens 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou une lettre qui semblait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie ou le grand rejet de Dieu soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, ou l'homme de péché, ou l'homme de révolte, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse dans son temps. Car le mystère ou la puissance mystérieuse de l'iniquité ou de la révolte agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, on l'a vu tantôt, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, on y va rapidement, verset par verset. Paul leur dit, écoutez, là, quelqu'un vous a troublé, quelqu'un a écrit des lettres en mon nom, c'est pas vrai, c'est comme si Jésus était déjà venu, puis vous étiez resté derrière, puis là, vous êtes inquiet, etc. Il faut d'abord, il dit, que premièrement, il y ait une apostasie, un détournement de Dieu, et que l'homme impie apparaisse. Bon, l'homme impie, ou l'homme de péché, ou l'homme de révolte, comme il est marqué ailleurs ou dans d'autres traductions, cet homme-là, c'est un homme qui n'a aucune crainte, aucun respect de Dieu. Impie, dans le grec, c'est anomia, ça veut dire sans loi. A, ça veut dire sans, nomia, ça veut dire loi. C'est un homme sans loi, il est sa propre loi, il fait sa propre loi. Il n'a pas de temps à perdre avec les principes de Dieu. C'est un homme qui a toujours fait à sa tête et qui a toujours gagné. Il a toujours eu ce qu'il voulait en faisant ce qu'il fallait pour y arriver. Vous connaissez peut-être le genre? Il y en a eu plusieurs à travers l'histoire de ce genre-là, mais lui, il remporte le trophée. C'est un séducteur, un menteur, un trompeur, et il arrive à séduire presque les élus de Dieu. Alors, écoutez, on nomme pas de nom, mais il y a malheureusement, il faut faire attention, frères et sœurs, parce que il en arrive qu'ils vont paraître bien et ils vont chercher à séduire même les élus de Dieu. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous est dit ici? C'est le fils de la perdition ou il est voué à la perdition ou destiné à la perdition. Dieu ne prédestine personne d'emblée à la perdition. Dieu ne désire que personne périsse, mais que tous viennent au salut. Mais, attention, Parce que Dieu permet à des êtres humains qui sont révoltés envers lui de s'endurcir comme Pharaon, et Dieu va même endurcir leur cœur à ce moment-là. Et à ce moment-là, ils sont, oui, voués à la destruction. Ils sont, oui, voués à la perdition. Dieu a dit à Pharaon, « Je t'ai suscité, pas créé, je t'ai suscité à cette position-là pour démontrer, quoi? Ma gloire. Ma gloire. » Et c'est la même chose avec l'Antéchrist. L'Antéchrist, là, il n'est pas sans, je veux dire, il ne prend pas Dieu par surprise, là. Des fois, on est tellement impressionné par ce spectre-là de l'Antéchrist qu'on dit, c'est comme s'il échappait au contrôle de Dieu. Non. Il n'échappe pas au contrôle de Dieu. Mais Dieu va se glorifier, pareil comme il s'est glorifié avec Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il se révolte de façon irrationnelle contre Dieu. Et par contre, Dieu s'est glorifié à travers tout ça. Il est appelé ici aussi quoi? L'adversaire, au verset 3, vers le milieu, vers la fin. L'adversaire. L'adversaire de Dieu, il s'oppose à Dieu et à tout ce que le peuple de Dieu croit et représente. Il s'élève au-dessus de tous les dieux. Vous avez ça? Vous me suivez? Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on peut adorer. Cet homme-là va se placer au-dessus de tous les dieux, de toutes les religions du monde, et il va réclamer qu'on l'adore lui. Et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Donc, c'est pourquoi que, actuellement, le temple n'est pas construit. Hein? Il n'y a personne d'assis dedans qui se réclame d'être adoré, comme on voit ici. Mais des choses peuvent arriver très vite, très, très vite dans l'histoire. Des fois, les choses arrivent comme ça. Et est-ce que c'est possible que cet homme-là soit en vie en ce moment? Oui. Oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Il apparaît à la suite d'un grand rejet. Un grand rejet de Dieu, l'apostasie. Le mot apostasie veut dire se tenir loin de. C'est l'abandon délibéré d'un attachement à Dieu. Et Paul décrit les attitudes des gens dans les derniers temps dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Il dit que dans les derniers temps, les gens vont être égoïstes, vantards, avides d'argent, pas d'égard pour leurs parents. Ils parleront de Dieu de manière injurieuse, etc., etc. Il termine en disant qu'ils auront l'apparence de la piété, des pratiques religieuses extérieures, mais en reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de l'attachement à Dieu? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que vous suivez Jésus-Christ? C'est l'amour. Ils n'auront aucun amour dans leur cœur pour Dieu. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui produit l'amour. Oui. Donc, c'est le Saint-Esprit et l'amour qui fait la force de l'attachement à Dieu. Sinon, c'est un attachement purement extérieur, purement cérémonial, si on veut. Et donc, il y a un détournement généralisé de Dieu dans les derniers jours, quoique les gens gardent une certaine façade de religiosité. Les gens de nos jours se tiennent de plus en plus loin de Dieu, tout en maintenant parfois un certain attachement à une religion ou à une autre. Mais ils ne veulent pas être vus ou associés au Christ. Ils seront ainsi, écoutez bien, vulnérables à croire aux mensonges. Ils seront vulnérables et prédisposés à accueillir l'Antéchrist parce qu'ils se sont détournés du vrai Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, nous dit Paul. Et ici, dans notre passage de Thessaloniciens 2, il termine en disant qu'ils auront l'apparence. Oui, c'est ça. On l'a dit ça, pardon. L'Antéchrist lui-même sera l'exemple parfait de cette apostasie. Même certains vont dire que l'apostasie, c'est directement lié à l'Antéchrist et que l'Antéchrist est le point culminant de cette apostasie. Oui, oui, parce qu'il se détourne complètement de Dieu à tel point qu'il veut lui-même être Dieu et adorer comme Dieu. Donc, c'est le summum de l'apostasie. Et ça veut dire que possiblement, cet homme-là, il sort d'un milieu religieux. Il sort soit du judaïsme ou du christianisme. Il se détourne. Il commence peut-être là pour pouvoir se détourner de ça. Hein? Faut que tu commences à quelque part. Peut-être. Cette puissance d'iniquité, Paul nous dit, agit déjà, est déjà à l'œuvre dans le monde. Le mystère de l'iniquité, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pas que l'iniquité, c'est un mystère, mais c'est qu'il y a une puissance cachée. Souvent, dans le Nouveau Testament, quand on lit mystère, ça veut dire caché. Il y a un esprit caché qui agit déjà dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et cette puissance-là, c'est la puissance qui veut pousser les gens à se détourner de Dieu et à se faire eux-mêmes Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans les médias. C'est ce qu'on voit dans le Nouvel Âge. C'est ce qu'on voit dans les films de super-héros. C'est que l'homme devient un Dieu. De plus en plus, c'est ça. Tu es un super-héros. Tu évolues toujours vers un être plus fort, meilleur, plus performant que toute l'humanité. Et toute l'humanité, en fait, évolue vers quelque chose de meilleur, vers le statut d'un demi-dieu. Ce n'est pas nouveau. C'était présent dans les empereurs romains. C'était présent dans l'histoire. Mais on voit une recrudescence de cette mentalité, de cette puissance-là, avec le détournement de Dieu. Ce mystère, cette puissance cachée de l'iniquité agit de plus en plus fort. De plus en plus fort. Mais il y a quelque chose qui retient, qui empêche que cet homme-là ne paraisse qu'en son temps, au verset 6. Vous vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, Paul dit, lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu, alors paraîtra l'impie, l'Antéchrist. OK? Qu'est-ce qui le retient? Paul dit, vous savez ce qui le retient de se manifester. L'interprétation de ce verset est un peu problématique pour les théologiens, un peu controversée. Mais j'ai juste une question pour vous. Qui est assez fort pour retenir Satan? Et qui est l'expression de Dieu? Quelle personne de la Trinité agit? C'est le Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut retenir. Il y a un commentateur, je pense c'est John MacArthur, qui dit que Satan, là, il veut à tout prix s'incarner dans un homme comme Dieu s'est incarné dans Jésus-Christ. Parce que Satan, là, il imite toujours ce que Dieu fait. Satan ne peut pas réinventer la roue, là. Mais il veut faire mieux que Dieu, toujours mieux que Dieu. Et Satan, il veut faire ça. Il veut s'incarner dans un homme. Et il veut que cet homme-là règne sur la terre tout entière et usurpe la place de Christ, finalement. C'est à Christ que revient cette place-là. Mais Satan veut faire ça. Mais il y a quelqu'un qui dit non. Non. Il y a juste le Saint-Esprit qui est assez fort pour faire ça, qui le retient pour qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure. C'est pas comme si l'Antéchrist, là, aussi puissant et séducteur qu'il est, va échapper au contrôle de Dieu. Il va apparaître en son temps. Quel temps, ça? Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Maintenant, ça rappelle l'histoire de Noé. Dans Genèse 6, est-ce que vous vous rappelez de ça? Genèse 6, le déluge, là, ça commence avec de l'immoralité sexuelle. les fils de l'homme qui s'en vont voir les filles de Dieu, etc., puis des géants sur la terre, etc. Puis Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ses jours seront de 120. Bon, mon esprit va, à un moment donné, là, je vais arrêter. Puis c'est ça qui s'est passé. Noé, pendant toutes ces années-là, ces décennies-là, a prêché la justice. Hein, Pierre nous dit qu'il était un prédicateur de la justice. Et à un moment donné, Dieu a décidé, c'est fini, il a fermé l'arche et le déluge est venu, le jugement est arrivé. C'est un parallèle. C'est un parallèle. Il y aura un temps où, tout comme avant le déluge, Dieu dira à son Saint-Esprit, « Assez, arrête de retenir, arrête de convaincre. » L'œuvre du Saint-Esprit, on le sait, c'est de convaincre de péché, de justice, de jugement. Dieu va dire « Assez ». Maintenant, l'Esprit agit surtout à travers la proclamation de l'Évangile. Et donc, cela implique possiblement que l'Église serait déjà enlevée avant que l'Antéchrist puisse vraiment se révéler. Mais, par contre, l'Esprit n'agit pas exclusivement à travers l'Église. Pensons aux gens dans les pays arabes, les musulmans, on entend ça beaucoup là, ces dernières années, les gens qui ont une vision de Christ pendant qu'ils dorment, là, puis qui viennent au Seigneur. C'est une révélation directe du Saint-Esprit. Donc, oui, le Saint-Esprit va agir surtout à travers l'Église, surtout à travers la proclamation de l'Évangile, mais pas exclusivement. Donc, il ne faut pas se baser uniquement sur ces versets pour conclure que l'Église est enlevée avant la tribulation. Hein? Ce serait très bien, oui, on voudrait tous ça. Mais comme j'ai dit, il y a des positions différentes. Que l'Église soit enlevée avant la tribulation, au milieu de la tribulation ou à la fin de la tribulation, c'est trois positions différentes. Je ne veux pas m'ostiner là-dessus, OK? Tous ces gens-là qui croient à ces trois positions-là, bien, comme on disait mardi soir, Richard et moi, ils vont se ramasser dans le millénium, pareil, ensemble, au retour de Christ pour régner. OK? Fait que divisons pas l'Église là-dessus. Vous avez droit à votre conviction, mais faisons pas de division là-dessus, frères et sœurs, honnêtement, là. Fait que cet homme, l'impie, l'homme sans loi, qui est une loi à lui-même, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera détruit par le souffle de la bouche de Christ. Comme on a vu dans Apocalypse 19, l'épée de la parole de Christ sera puissante pour le détrôner et l'envoyer directement en enfer. Mais son apparition de cet homme-là, Paul ajoute, attention, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est ça qu'on disait tantôt, le grand détournement de Dieu, la grande apostasie va les rendre vulnérables à croire à tout ce que l'Antéchrist va dire et faire. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge? Ce n'est pas que Dieu est l'auteur du mensonge, c'est qu'il y a des esprits mensongers et Dieu dit « OK, allez-y ». On voit ça dans un parallèle dans l'Ancien Testament avec Achab. Achab, le roi d'Israël, puis il y a des esprits malins qui se présentent devant Dieu. Dieu dit, qui va séduire Achab? Puis il y a un esprit, moi je vais être un esprit mensonger dans la bouche de ses prophètes. Dieu dit, OK, vas-y. Vas-y. Fait que c'est comme, encore, l'image de Dieu qui retient les forces du mal. Et puis à un moment donné, Dieu dit, OK, je vous le relâche, allez-y. Donc, il y a un esprit d'égarement qui vient convaincre les gens que, wow, cet homme-là, c'est vraiment lui, là. Puis même, il y a certains qui vont dire, ben oui, c'est Jésus-Christ. Rapidement, tournez avec moi dans Apocalypse 13, et avec ça, je termine, on va y aller très rapidement, Apocalypse 13. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage-là aussi fondamental sur l'Antéchrist? On y va rapidement. Verset 1. Une bête qui a 10 cornes, 7 têtes, sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, les noms blasphèmes. C'est un homme qui règne sur une coalition. C'est un homme qui a fait une coalition, comme on a vu dans la statue de Daniel. Il y a une coalition, il y a plusieurs diadèmes, et c'est lui qui règne là, sur cette coalition-là. Mais il porte sur sa tête des noms blasphématoires. Il est animé de la puissance de Satan. Au verset 2, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Il est blessé mortellement, au verset 3. J'ai vu une des têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et la terre est remplie d'admiration. Waouh! T'as-tu vu? Il était probablement le cible d'un attentat d'assassinat. Et mais il guérit. Il ressuscite même. Et les gens sont de l'admiration. Ils adorent le dragon et ils adorent la bête. Au verset 5, ils profèrent des paroles arrogantes et blasphématoires contre Dieu. Il fait la guerre contre le peuple de Dieu, verset 7, et il les vainc. C'est la première fois que Dieu permet à son peuple d'être complètement vaincu par l'ennemi. Il a toute autorité sur la terre. Il lui fut donné, verset 7, autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit. Il a toute autorité, tous l'adoreront, sauf ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Eux seuls auront la force de résister à la séduction et à la pression énorme pour fléchir le genou devant la bête. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je pense, la pression énorme qui va s'apaiser sur les gens pour qu'ils plient le genou. Juste le fait de ne pas être capable d'acheter ou de vendre sans avoir le nom, ça va être énorme. La pression sociétale va être énorme. Et il va y avoir la guerre, la répression violente. C'est inimaginable. Hitler là, va paraître comme un petit écolier à côté de ce gars-là. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir reçu la marque de la bête sur son front ou sur la main droite. Et au verset 9, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un est destiné à la captivité, il aura certainement en captivité. Si quelqu'un est tué par le pied, il faut qu'il soit tué par l'épée. Il parle des saints ici. Les saints qui vont résister. Il faut qu'ils résistent jusqu'à la mort. Et c'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est seuls les vrais chrétiens qui vont avoir la force de résister, mais ça va être une résistance qui va leur coûter la vie. Maintenant, on n'aura pas le temps d'aller voir ce que Satan est enchaîné pendant 1000 ans. Durant cette période-là, on va le voir, il est enchaîné et mis dans l'abîme pour 1000 ans. Mais dans tout ce qu'on a vu ce matin, je termine avec ça, c'est troublant. C'est troublant de voir, premièrement, comment les gens se détournent de Dieu actuellement et puis de plus en plus que ça va aller en s'empirant. De plus en plus, les gens vont prêts à croire à des mensonges, puis on le voit déjà, c'est troublant. Ça devrait nous troubler. Et ça devrait nous donner de la compassion. Au lieu de jugement, au lieu de mépris. C'est troublant de penser qu'un jour, un homme va venir qui va être tellement méchant, tellement possédé par Satan, qu'il va faire des choses inimaginables. Mais c'est troublant. Et c'est troublant de voir les signes qui commencent à s'accomplir, toutes ces choses qu'on voit autour de nous. C'est troublant tout ça, mais on ne fait pas l'étude ce matin pour être troublé. On fait l'étude pour voir qu'on a une espérance. L'espérance, c'est qu'il y a un plus grand que lui. Le chevalier sur le cheval blanc, il vient et tout simplement avec sa parole, c'est terminé. Il va régner. Il va vaincre. Il va mettre mettre fin à toute cette méchanceté-là. Christ aura le dernier mot. Christ gagnera à la fin. Fait que beaucoup de gens, quand ils commencent à étudier l'eschatologie, et ça m'a déjà arrivé aussi à moi, on se perd dans les détails, ou on se perd dans essayer de trouver c'est qui ça l'Antéchrist, ou quand est-ce qu'il va apparaître, ou c'est quand est-ce qu'ils vont rebâtir le temple, ou bien, tu sais, puis on se perd dans les événements, ou on se perd à dire, wow, l'Antéchrist, wow, là, wow, e-boy. Non, là, on est complètement à côté de la traque. Dieu ne nous a pas donné ces détails-là pour qu'on se perde dans ces choses-là, mais qu'on porte le regard sur lui qui va venir, le fidèle et véritable, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Oui, oui. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Amen, amen. Frères et sœurs, prions. Merci Seigneur Dieu pour ces révélations extraordinaires de ta parole. Et on voit, Seigneur, par ces révélations que c'est toi seul qui es Dieu. Toi seul. Comme tu dis dans ta parole, qui d'entre vous a dit qu'est-ce qui allait venir? Dites-le. Qui d'entre vous a prédit ces choses? C'est moi seul. C'est moi seul. Seigneur, je te prie que nos cœurs ne soient pas troublés par ces choses, mais que nos cœurs soient sanctifiés. Qu'on puisse attendre avec ardeur ta venue, comme on a vu. Qu'on puisse attendre avec ardeur ta victoire. Qu'on puisse, entre-temps, Seigneur, s'occuper des choses de notre Père, sachant que ces choses-là s'en viennent. Oui, Seigneur, viens nous saisir de la vision de ta personne glorieuse ce matin. On te prie maintenant pour ce barbecue, que ça se passe sous ton regard, Seigneur.